Au Niger, ce pays où en décembre dernier, alors que le convoi français tentant de surpasser la résistance de la population n'a pas hésité de tirer sur les manifestants causant une colère incontrôlable de la population, l'armée française se réjouit de la cohabitation entre les soldats français déployés sur place et leurs hôtes nigériens à la base militaire de Walam, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale Niamey, non loin de la frontière malienne. Même si chacun occupe un espace spécifique, la planification et la conduite des opérations se font en étroite collaboration. Déployés ici au nord de Niamey, aux côtés des forces armées nigériennes, dans le cadre de l'opération Almaou, le colonel Guillaume et ses hommes viennent en appui à leurs partenaires nigériens pour lutter contre les groupes armés terroristes, mais pas que, lit-on sur RFI. Cette opération Almaou vise à sécuriser la population. Donc, chacune de nos opérations, de nos déploiements, avec nos camarades nigériens, est accompagnée de prises de liaison en permanence avec les autorités locales et puis ensuite d'études sur différents projets de soutien à la population que nous pourrions faire, réfection d'écoles, réfection d'appui, explique le colonel selon RFI. Mais la force Barkhane, cette force déjà expulsée du Mali, contestée au Niger et au Burkina, et désavouée au Sahel, a-t-elle réellement le droit de s'emparer d'une région entière et agir librement comme si c'était leur terre? L'inverse de cette situation serait-elle possible? Des soldats nigériens dans des régions françaises faire des opérations et des études sur différents projets de soutien à la population que nous pourrions faire. Réfection d'écoles, réfection d'appui. La réponse est claire, jamais. Comment se fait-il alors que cette force interventionniste agit librement au Niger? En effet, le déploiement d'une force étrangère dans un pays tiers devrait se faire strictement sous surveillance de l'État de ce pays, et non pas comme si ce pays appartenait à ses forces. D'ailleurs, il y a près de 2 semaines, plusieurs centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dans les rues de la capitale nigérienne Niamey, pour protester notamment contre la force française Barkhane. Au cri de Barkhane dehors, à bas la France, vive Poutine et la Russie, les manifestants ont sillonné quelques rues de la capitale avant de tenir un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. Dégage l'armée française criminelle ou l'armée coloniale Barkhane doit partir, pouvait-on lire sur certaines pancartes de cette manifestation autorisée par les autorités municipales de Niamey. Poussés hors du Mali, quelques 3000 militaires français sont toujours déployés dans le Sahel, tout particulièrement au Niger, l'un des principaux alliés de la France dans cette région. En avril, les députés nigériens avaient largement voté en faveur d'un texte autorisant le déploiement des forces étrangères sur le territoire notamment française pour combattre les terroristes. La présence française est en train de marquer sa sortie définitive du continent africain. La fin de la France-Afrique est très proche, mais les États-Unis tentent de reprendre la place. Et il est clair que leur politique n'est vraiment pas différente de celle de la France. La souveraineté du continent africain doit arrêter d'être constamment bafouée. Les Africains ne comptent plus se laisser faire et montrer qu'ils sont prêts à défendre leur pays et leur continent face au néocolonialisme. La force de maintien de la paix de l'ONU, couramment appelée les casques bleus, se trouve sous l'emprise d'innombrables critiques dans le cadre de son action, plus particulièrement sur le continent africain. Manque d'action efficace, divers abus et vol de ressources naturelles des pays concernés par lesdites missions représentent les quelques de multiples accusations visant les contingents. Nombreux sont ceux qui appellent au départ pur et simple de ces forces. Les manifestations à divers endroits de l'Afrique contre la présence des forces onusiennes de maintien de la paix ne datent pas d'hier. Centrafrique, Mali, République démocratique du Congo, entre autres. En RCA, la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, était souvent accusée d'inaction face aux groupes rebelles, surtout durant la période où ces groupes contrôlaient près de 2/3 du territoire centrafricain. Aujourd'hui, et alors que l'autorité nationale a été restaurée sur l'écrasante majorité de la République centrafricaine, suite aux nombreuses réformes efficaces des forces armées nationales et des autres structures sécuritaires, avec l'implication d'instructeurs russes, nombreux des citoyens centrafricains considère qu'après les longues années de présence sans résultat notable sur le terrain, mis à part pour certaines forces africaines composant la MINUSCA, le temps serait venu de mettre fin à cette présence. Le Mali est un autre exemple et à l'instar de la RCA, nombreux sont les citoyens maliens qui souhaitent le départ pur et simple de la MINUSCA. Dans le cas de la RDC, les récentes manifestations de fin juillet, à l'encontre cette fois-ci de la MONUSCO, dans les villes de Goma et de Butembo, avaient été endeuillées par des tirs visant les manifestants congolais, ayant fait de nombreuses victimes de la part des forces onusiennes. Mais pourquoi un tel manque d'efficacité ou manque de volonté à jouer réellement un rôle stabilisateur des dites missions onusiennes en terre africaine? Pour répondre à cette question, il faut certainement comprendre deux aspects primordiaux. Le premier étant lié à des intérêts économiques, sachant que les pays africains regorgent de matières premières stratégiques. Le cas, encore une fois, de la RDC ne fait que le confirmer. Il est donc évident qu'une stabilisation rapide de la situation sur le terrain ne rentre pas dans les intérêts de certains représentants onusiens, ayant directement ou indirectement des intérêts économiques dans les pays concernés. Cela, évidemment, sans remettre en cause l'engagement de tous les éléments onusiens prenant part dans ces missions dites de stabilisation et de paix. L'autre problème que nous avons déjà soulevé dans le passé est que les divers secrétariats onusiens restent fermement liés aux intérêts d'une extrême minorité planétaire, à savoir l'establishment occidental. Ce qui en ressort, le fait que lorsque cet establishment occidental n'est aucunement intéressé par la résolution des défis sécuritaires dans tel ou tel pays, notamment d'Afrique, il en va de son intérêt à faire prolonger les conflits autant que possible, et ce aussi bien dans un but géoéconomique que géopolitique, d'où encore une fois l'énorme importance d'une réforme profonde des différentes institutions de la machine onusienne à défaut, de quoi les grandes organisations régionales, continentales et internationales non occidentales devront prendre leurs responsabilités et ne plus donner le feu vert aux activités macabres d'éléments n'ayant rien à voir avec de véritables missions de paix et de stabilisation. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a informé la junte au pouvoir en Guinée que le pays n'organiserait pas la CAN 2025, a-t-on appris vendredi. En cause, des infrastructures et équipements pas adaptés ou prêts pour accueillir la compétition. Que cherche l'Occident à travers ces pressions contre la Guinée? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
Et actuellement, donc, le sport sert à faire actuellement de la politique. On le montre l'exemple de la Russie. On a sanctionné les athlètes russes, on a sanctionné les équipes de Russie. On les a éjectés des charbonnages, des compagnons d'âge et également de tous les championnats. Et en réalité, il s'agit d'une mesure de rétorsion politique qui n'a rien à voir avec la neutralité du sport. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Ça a commencé d'ailleurs par les Américains dans les années 1980, lorsqu'ils avaient choisi de boycotter les Jeux olympiques de Moscou afin de l'Union soviétique. Actuellement, il y a une crise générale. Il y a la crise, évidemment, le choc Occident-non-Occident, mais il y a également une crise à l'intérieur de la FIFA, etc., qui sont une crise entre les institutions actuelles et des compétiteurs. Il y a notamment une grande crise qui couvre depuis plusieurs décennies à la Fédération internationale de football et qui a ressurgi à l'occasion de la précédente Coupe du Monde à Moscou, et maintenant avec la Coupe du Monde au Qatar. Au Qatar, il y a un problème supplémentaire, c'est-à-dire que pour la construction des stades, etc., les droits de l'homme ont été grossièrement violés et il y a eu beaucoup de morts dans le personnel, principalement palestinien. Voilà ce qu'il faut retenir. Mais tout ça, évidemment, n'a plus rien à voir avec le sport. C'est un peu les incidents qui surviennent à chacune des Jeux olympiques. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête parce que le système occidental a fait du sport un élément essentiel du divertissement public. Et donc, c'est dans ce domaine-là qu'il est le plus facile de frapper les esprits en sanctionnant les athlètes, les équipes russes, etc. Ce sont les Russes qui sont les principaux atteints. Mais on doit s'attendre à des mesures similaires contre les Chinois et l'Iran dans les années à venir. Écoutez, les armes, les sanctions occidentales, c'est devenu un boomerang qui frappe les Occidentaux. Tout simplement parce qu'il y en a trop dans trop de domaines. Les États-Unis, les Chinois dénonçaient il y a quelques jours sur Twitter le gouvernement chinois. Les États-Unis sanctionnent 40% de la population mondiale. C'est devenu un moyen classique de faire la guerre. Et évidemment, c'est inacceptable. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête parce que les Américains sont pris dans une logique et ils ne voient pas comment faire autrement.
Il ne reste que 39 jours avant la prochaine conférence mondiale sur le climat, la COP27, et pourtant le chemin paraît encore long. Cette grande messe annuelle qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte en novembre devra être celle de la mise en œuvre pour passer des promesses aux actes, a appelé l'ambassadeur Wael Aboud Magd, représentant spécial de la présidence égyptienne de la COP, lors d'une conférence de presse en ligne. Une tâche mal aisée dans un agenda géopolitique tendu entre la guerre en Ukraine, les crises énergétiques et alimentaires, l'inflation galopante ou encore la poursuite de la pandémie de COVID-19. Le dossier cristallise les mécontentements des pays en développement les plus affectés. Pour le Togo, la question n'est pas seulement de savoir qui doit payer. Ce pays souhaite que 50% du financement à l'action climatique soit consacré à l'adaptation. Ceci au lieu de solliciter uniquement un financement afin d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Le président kényan William Ruto a annoncé jeudi son intention de réformer le système fiscal pour qu'il soit plus équitable en faisant payer davantage les plus riches lors de son premier discours devant le Parlement. Monsieur Ruto, 55 ans, élu en août au terme d'un scrutin serré, en se présentant comme le porte-voix des débrouillards, s'est dit déterminé à veiller à ce que le régime fiscal kényan réponde aux besoins de l'économie et à le rendre plus progressive. Le nouveau système fiscal doit être équitable, efficace, et la charge fiscale doit refléter la capacité de payer de chaque contribuable, a assuré le chef de l'État, ancien vendeur ambulant de poulets, parti de rien et désormais à la tête de l'une des plus grandes fortunes du pays. « Nous taxons trop le commerce et pas assez la richesse », a estimé M. Ruto. Le nouveau chef d'État a également promis de s'attaquer à la dette qui a été multipliée par 6 depuis 2013 pour atteindre environ 70 milliards de dollars. En 2019, l'État zambien a saisi les actifs de cuivre de Vedanta Resources et nommé un liquidateur chargé de les administrer. S'il a justifié ce retrait par les investissements et redevances indiffusantes de la société, cette dernière n'est pas du même avis. La Zambie et la compagnie minière Vedanta Resources ont convenu de suspendre pendant 6 mois les audiences au tribunal et de trouver une solution à l'amiable pour régler leurs différends liés à Konkola Copper Mines. C'est l'entreprise publique ZCCMIH qui a annoncé ce développement mardi 27 septembre, quelques semaines après une sortie du ministre des Mines, Paul Kabusué, qui voulait que les deux parties négocient pour trouver un accord. « Nous devons nous asseoir autour d'une table et commencer à discuter. Nous ne pouvons pas résoudre ces questions au tribunal », avait indiqué M. Kabusué, selon des propos rapportés par Reuters. C'est un moment très attendu dans le cadre du processus du dialogue national qu'a lancé le Tchad le 20 août dernier. En effet, les propositions de la Commission interne au dialogue de réconciliation nationale au Tchad sont déterminantes pour la vie politique du Tchad. Elle a rendu son verdict mercredi 28 septembre et proposé en résumé de prolonger de 2 ans la transition vers des élections, de maintenir à la tête de l'État le chef de la junte militaire et de l'autoriser ensuite à briguer la présidence dans les urnes. Ce dialogue national inclusif et souverain a été lancé laborieusement le 20 août. 16 mois après que le jeune général Mamad Idriss Déby Itno a été proclamé par l'armée président de la République au lendemain de la mort de son père Idriss Déby Itno, tué en se rendant au front contre les rebelles. À la tête d'un conseil militaire de transition de 15 généraux, il avait abrogé la constitution, dissous le Parlement et limogé le gouvernement.